France Info.
Jean-Marc Lissner dirige la filiale du premier négociant français de vin à Tokyo. Il explique que c'est surtout sur les bouteilles d'entrée de gamme que la mesure va jouer. C'est le cœur du marché nippon plombé par une économie à tonnes.
Ça va nous permettre de réduire et d'arriver surtout au prix des vins chiliens, puisque le marché japonais a été envahi par les vins chiliens. On est maintenant numéro 2. Avant, on était toujours le numéro 1 du vin au Japon. Maintenant, nous sommes les numéro 2 et ça, c'était un peu triste, quoi. Donc, on va pouvoir rattraper notre retard.
Vu que l'accord prévoit aussi une reconnaissance des IGP et des AOP, les indications géographiques, sa société compte sur le storytelling, l'histoire racontée de la marque ou du produit pour recruter de nouveaux clients et vendre des flacons plus haut de gamme.
Un cépage français, c'est aussi dans un terroir. Par exemple, si on vend un Cabernet Sauvignon du Languedoc, c'est pas la même chose qu'un Cabernet Sauvignon Bordeaux, etc. Et ça, c'est important pour les Japonais parce qu'ils aiment la culture, ils aiment se cultiver. Puis ils aiment aussi ce qu'on appelle le côté artisan. Ils aiment bien avoir derrière les vins le winemaker qui fait le vin, son histoire, etc. Donc là-dessus aussi, on a des choses à raconter.
Jean-Marc Lissner n'est pas un petit nouveau ici. Ancien de chez Renault, débarqué à Tokyo, il a 33 ans. Au terme d'un incroyable périple en train à bord du Transsibérien, il tombe immédiatement amoureux de l'archipel. Le jeune homme, diplômé en économie à Paris Dauphine, se lance d'abord dans l'importation d'articles de décoration et d'art de vivre à la française. Il a alors 60 employés. Changement de braquet aujourd'hui où ils ne sont que 7.
On aide à ce que ça se passe bien. Bon, c'est un peu deux parallèles. Hein. Le Japon et la France ne se rencontrent pas toujours et il faut travailler entre les deux. Toute la logistique, c'est quand même très compliqué au Japon. On a des bons partenaires. Apparemment, on est là, nous aussi, pour les appuyer. Ils savent très bien faire le travail. Ce serait de gros investissements à faire ça nous-mêmes au Japon. Il y en a qui ont essayé de s'implanter comme ça. C'est quand même très, très compliqué.
Façon de dire qu'ici, il est impossible de se passer d'un intermédiaire. C'est le conseil qu'il donne aux entrepreneurs, tentés comme lui par le grand saut.
Si on n'a pas les moyens, il vaut mieux d'abord aller en Belgique ou je dirais en Allemagne, c'est peut-être déjà une première expérience, c'est un pays lointain, très difficile, très cher et qui demande du temps. On n'est pas là pour faire des coups au Japon, on est là pour travailler dans le temps, donc il vaut mieux avoir des produits bien finis, bien étudiés avant de les vendre au Japon. Franchement, le Japon, c'est pas facile, ils ne parlent pas bien anglais, il vaut mieux avoir des gens sur place qui parlent la langue.
Cet accord de libre-échange tombe en tout cas à point nommé à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby cet automne au Japon et avant les Jeux Olympiques à l'été 2020. Retrouvez cette chronique sur internet franceinfo.fr.